Salut à tous, chers Velbistes, chers vieux cons et vieilles connes. Vous écoutez le 4e épisode de C'était mieux avant, un podcast qui veut vous en apprendre plus sur l'histoire de Solvay et ses initiatives étudiantes, cercles, bureaux, guildes et toutes les autres. Aujourd'hui, on aborde le thème de la Seconde Guerre mondiale. Acte de résistance, caducé, groupe G, vous saurez tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, car avec votre soutien, on en fera encore plein d'autres. Bonne écoute! C'était mieux avant, et on va vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Gary Mizrahi, et je suis en compagnie de Pierre Brancard.
Bonsoir.
Et de Mathias Roulens.
Salut.
Alors, l'épisode d'aujourd'hui va traiter de la situation de l'ULB pendant la Seconde Guerre mondiale. On va aborder l'organisation du cercle à l'arrivée de la guerre, l'organisation de la résistance universitaire, l'histoire de ce qu'il s'est passé sur le campus du Solbosch jusqu'à la libération de Bruxelles le 3 septembre 1944. Et alors, pour rythmer cet épisode, j'ai noter quelques petites dates sur mon carnet, et on va commencer tout de suite par 1934.
En 1934 apparaît le comité de vigilance antifasciste, un comité qui est encore présent à l'heure actuelle au sein du libre examen, et qui à l'époque est patronné par l'Assemblée Générale et le Cercle du libre examen. En 1934, il y a aussi un congrès mondial qui s'organise à Bruxelles, le congrès mondial des étudiants contre la guerre et le fascisme, qui va rassembler 380 délégués de 43 pays différents. Alors, ce congrès, on n'en a pas eu plus de nouvelles que ça après, c'est très dur de le sourcer, mais c'est pour dire que c'est vraiment en 1934 que l'Université libre de Bruxelles se rend compte de la menace fasciste et que les premières luttes apparaissent contre ça.
Donc, le congrès mondial, il a été créé par des étudiants de l'ULB ou pas ?
Il y a très peu de sources, mais on peut imaginer, comme beaucoup de congrès mondiaux, qu'il y a une initiative qui est prise, que derrière, on contacte des étudiants de différentes universités, et que au final, c'est les étudiants de l'ULB qui sont les instigateurs de ça.
À partir de ce moment-là, les étudiants ont vraiment commencé à se politiser, ou en tout cas à vouloir défendre les valeurs avec des mouvements politiques qui leur sont propres. Le Cercle Solvay avait déjà une tendance un peu plus libérale, et c'est ce qu'on va vite voir apparaître dans les premiers articles du caducé. Le caducé apparaît en 1939 un peu en réaction à cette envie des étudiants de commencer à manifester leurs idées et de réagir aux événements qui les touchent directement. Et dans les premiers caducés, à côté des manifestations du cercle habituel, les baptêmes, les guindailles, etc., il y a très vite des tribunes très politiques sur l'invasion de la Pologne.
La guerre en Espagne aussi.
Voilà.
Donc là, on est passé directement de 34 à 39. Comme là, tu viens de nous en parler, la guerre en Espagne en 36, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici ?
Oui, alors la guerre en Espagne, c'est une guerre qui a sensibilisé quand même pas mal à travers l'Europe. On sait qu'il y a des Anglais qui sont partis, des Français, etc. Et la Belgique n'a pas été épargnée par ça. Et des étudiants de l'Université libre de Bruxelles sont partis combattre en Espagne. Suite à ça, en 1936, donc, il y a le comité d'aide à l'Espagne républicaine qui est créé au sein de l'Assemblée générale. Et comme ça a été dit dans le podcast sur la Saint-Verhagen, les Saint-V de 1938 et de 1939 sont annulés. Mais il y a quand même une collecte qui est organisée pour les familles de ces soldats mobilisés en Espagne. Donc oui, la guerre en Espagne va toucher aussi beaucoup les étudiants de l'ULB. Et globalement, on sent que de plus en plus, ils sont mobilisés. À l'époque, un petit bémol quand même, c'est que de par son histoire, l'ULB était quand même plus tolérante avec le totalitarisme de gauche. Mais ça va totalement cesser à partir en août 1939, quand le pacte germano-soviétique sera montré au monde.
Ok, ça va. Donc là on a les bases de ce qu'il faut savoir pour la suite. Et on arrive, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant, mais au 10 mai 1940.
Oui, peut-être juste dire qu'après la signature de ce pacte, donc c'est la première fois que l'ULB va vraiment être fortement impactée par la guerre, puisque en août 1939, la Belgique décide de mobiliser. Et donc certains étudiants et certains professeurs sont appelés sous les drapeaux. Et l'ULB devient vraiment impacté par ça, même si on voit qu'en 10 mai 1940, ça va être encore pire.
C'est l'entrée en guerre de la Belgique. Tout le monde le sait, on n'a pas résisté très longtemps malheureusement.
18 jours.
Et donc très vite, les occupants vont essayer de réorganiser la Belgique selon ce qu'on appelle l'ordre nouveau, c'est-à-dire l'intégration des universités dans une pensée allemande nazie. surveillance des cours, des rassemblements, des manifestations. La grinda étudiante n'est en tout cas plus à la fête. Beaucoup de cercles, dont le cercle Solvay, sont plus ou moins dissous, en tout cas en théorie. Et l'université va devoir se positionner également.
Quand tu dis que les cours sont sous surveillance, c'est-à-dire qu'il y avait des Allemands sur le campus ou...
Oui, c'est-à-dire la Kommandantur, que ce soit toutes les forces armées allemandes, vont prendre le contrôle des administrations, des entreprises, etc. Et vont également essayer de nommer dans le conseil d'administration de l'ULB des gens acquis à leur cause pour faire en sorte que l'ULB, qui est de tradition libérale, libre exaministe, enfin tolérant, etc., ne supporte pas franchement le fascisme. Et la question va se poser, est-ce que l'université continue à enseigner sous l'égide allemande et donc avec des opinions tronquées, leurs professeurs qui manifesteraient des idées contraires au régime nazi, exclus, des professeurs déportés, etc. Et elle va prendre une décision le 25 novembre 1941 de fermer ses portes.
Oui, alors la Belgique est donc dirigée par une administration militaire en allemand, Militarverwaltung, seule fois que je le dirai pendant le podcast. Et mais contrairement à aux autres grandes universités de Belgique à l'époque qui sont Gand, Liège et Louvain, l'ULB va se voir assigner un commissaire allemand qui sera responsable eh bien, de maintenir l'idéologie allemande au sein de l'Université libre de Bruxelles. Alors pourquoi seulement l'ULB? Ben, la question, on y répond facilement. C'est parce que avant cette guerre, l'ULB était quand même déjà vachement impliquée dans la lutte antifasciste, comme on l'a dit, beaucoup de manifestations, des journaux, etc., etc.
J'ai une petite question ici. À ce moment-là, quelle a été la réaction des cercles ou des étudiants quand ils ont vu l'arrivée des Allemands sur le campus?
Alors nous, de ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, c'est généralement par le CADUC, on va commencer à écrire quasiment jusqu'en mai 1940. Après, comme on a dit, les Allemands prennent le contrôle un peu du campus. Les cercles qui s'étaient farouchement opposés dans les tribunes, on n'a pas précisé, mais les tribunes sont évidemment vachement en défaveur de l'occupant. Ces cercles-là vont plus pouvoir maintenir des activités normales et les étudiants seront occupés à autre chose. Ils seront mobilisés, ils entreront dans la résistance. Certains vont s'occuper de donner malgré tout des cours clandestins à la fermeture de l'université. Il n'y aura plus de vie étudiante pendant un moment tel qu'on la connaît, ou en tout cas, elle n'est pas recensée.
Mais en fait, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'occupation arrive, c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau pour les étudiants et le climat est vraiment très bizarre. Et donc, c'est dur au départ de s'organiser, de savoir quoi faire. Tout le monde est dans le flou, on comprend pas vraiment ce qui se passe, on comprend pas vraiment ce que les Allemands font là. Et c'est petit à petit en fait que ça va se développer. Mais au début, c'est très très dur. Et d'ailleurs, les cours ne vont pas reprendre tout de suite, tout de suite. Alors, en 14-18, ils n'avaient pas repris du tout. Ça s'explique par le fait que, eh bien, en 14-18, la Belgique n'était pas entièrement occupée, et donc les armées belges étaient encore au combat. Là, la question de la réouverture, elle va se faire, puisqu'on est sous une occupation totale. Et donc, fin octobre, début novembre 1940, l'ULB va rouvrir avec ce commissaire allemand. Ce commissaire va vérifier que les professeurs et les étudiants, ils s'abstiennent de toute activité politique. Dans les activités politiques, on compte évidemment les cercles, les syndicats étudiants, etc. C'est pour ça qu'ils ne vont pas rouvrir. Et on va également remercier tous les enseignants juifs.
Est-ce que on peut mettre une date sur le début de la résistance universitaire?
On a parlé du 25 novembre 1941, au moment où l'ULB ferme ses portes. Et c'est aussi le moment où les étudiants vont devoir se concentrer sur d'autres activités, que ce soit la résistance, certains sont mobilisés, d'autres vont vaquer à leurs autres activités. Mais c'est un peu le moment où les étudiants vont se rassembler en dehors des cours, en dehors des cadres universitaires, mais toujours entre eux parce qu'ils se connaissent, pour former les premiers mouvements de résistance.
Alors, cette fermeture le 25 novembre 1941, elle est due en fait à une nomination de la part de l'administration militaire de trois de ses sympathisants à des postes à l'Université libre de Bruxelles. Elle se fait le 22 novembre 1941. Suite à cela, le bureau de l'université y décide de réunir le CA le 24 novembre, qui ferme l'université le lendemain, donc le 25, à 10 h. Cette fermeture, elle n'est pas anodine du tout, puisque bah, c'est un gros doigt d'honneur au pouvoir nazi en place à l'époque. Suite à cela, donc, le pouvoir va envoyer des lettres à tous les professeurs et assistants de l'Université libre de Bruxelles en leur demandant de retourner donner cours, en leur imposant de retourner donner cours. À cela, je pense qu'il y en a trois qui vont accepter, donc sur l'ensemble du corps estudiantin, c'est rien du tout. Et suite à ça, il va y avoir des arrestations. Que ce soit des membres du conseil d'administration, certains professeurs, certains étudiants, notamment le président de l'Assemblée Générale, ils vont tous se faire arrêter et relâcher dans l'année ou un an après. Mais du coup, cette fermeture, elle n'est pas anodine, et vraiment, ça montre l'opposition de l'ULB au pouvoir, déjà à l'époque.
Ce qui est intéressant avec justement le président de l'AG, c'est qu'à ce moment-là, donc l'Assemblée Générale est francophone, mais il y a son parallèle, dont on a déjà parlé dans le podcast précédent, le président de la BSG, qui est la BSG qu'on connaît actuellement, mais qui était à ce moment-là actif sur le campus de l'ULB, et les Allemands vont aller voir le président de la BSG pour lui demander, c'est Yann Dufour si je ne me trompe pas, pour lui demander de reprendre la présidence de l'AG. Parce que les Allemands se disent contre langue de même source, etc. Voilà, il y aura plus de sympathie à leur égard. Le président de la BSU va dire niet et va être arrêté à son tour, amenant à la dissolution totale, effectivement, de l'AG et de tous ses cercles membres.
Ça va. Donc là, on est en quelle année ?
Là, on est en 1941. Alors, il y a, à ce moment-là, l'Université libre de Bruxelles compte 3125 étudiants. Ils iront soit à Louvain, soit à Liège, qui, donc, les universités, elles, ne vont pas fermer leurs portes et continueront d'exercer durant l'occupation. Mais certains, donc, resteront à Bruxelles, et c'est là que vont arriver les cours clandestins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Bruxelles organisait chaque année des cours publics qui étaient donnés dans le lycée, dans les anciens locaux du lycée Émile Jacquemin. Et à ce moment-là, donc... Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Mais je sais pas, j'apprends.
Ah, ok. Je reprends où ?
Tu peux continuer.
Ok, je continue. Donc, qui était donné dans les anciens locaux du lycée Émile Jacquemin. Et les professeurs de l'Université libre de Bruxelles, qui, à ce moment-là, sont interdits d'exercer, vont aller à ces cours publics pour continuer de transmettre l'université, l'esprit de l'ULB. Et donc, ces cours publics, à la base organisés par la ville de Bruxelles, ça va vraiment devenir les cours de l'ULB.
Les mouvements étudiants vont, enfin les cercles étudiants vont fortement s'impliquer dans ces cours clandestins. À Solvay, on mentionne quelques étudiants comme Freddy Skenus ou autres, c'est un ancien président du cercle ou d'autres gens de son comité, et ils vont être appuyés par l'UIC, donc l'Union des ingénieurs commerciaux, c'est un peu l'équivalent de l'UAE, et son président à ce moment-là, Félix Leblanc, qui a fondé l'UIC en 1931, va être particulièrement actif, va soutenir financièrement, également avec l'aide d'Ernest John Solvay, donc le petit-fils d'Ernest Solvay, qui est à ce moment-là président d'honneur du cercle. Et ensemble, ils vont trouver des lieux, des maisons, des cafés pour essayer de donner cours. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des étudiants qui pouvaient passer un examen et le rater dans leur propre salon. Des professeurs qui donnaient cours avec une pinte à la main. Et c'est vraiment le système D par excellence pour permettre à ces étudiants de suivre leurs cours, de passer d'une année à l'autre ou de valoriser les diplômes qui passeraient dans d'autres universités à ce moment-là.
Est-ce que tous ces cours, tous ces examens étaient considérés comme officiels ou pas en fait au final ? Ou c'était juste pour la culture d'apprendre et d'enseignement ?
Alors on a une anecdote quand même assez exceptionnelle sur le sujet qui nous a été transmise par un ancien membre sorti en 1950, donc il sait de quoi il parle. Les diplômes qui sont passés pendant cette période ne sont pas avalisés directement, puisque l'université n'est pas ouverte, et du coup les diplômes ne sont pas signés ni rien, comme ils devraient l'être. Mais ils ont été accordés par les professeurs, les étudiants sont considérés comme ayant passé les cours. Pas toujours, il y a forcément eu... des étudiants passés d'une année à l'autre parce qu'ils étaient engagés ailleurs, parce que c'était le système D comme on l'a dit. Mais à la fin de la guerre, ces étudiants vont aller présenter leur diplôme au président de l'école à ce moment-là, donc M. Georges Deliner, en demandant que ces diplômes soient reconnus et signés par la faculté. Le président de l'école va refuser, provoquant la colère de la plupart des étudiants, en particulier des étudiants qui ont résisté et qui se sont opposés durant la guerre. Et ça va aboutir à un épisode assez particulier de l'histoire du cercle et de la faculté, où René Valenko, dont on reparlera plus tard, résistant très actif, membre du groupe G, président du service matériel, président du cercle Solvay avant ça, va débarquer un jour dans le bureau du président de la faculté Solvay, prendre tous les diplômes sous le bras, les mettre sur le bureau, demander une dernière fois « Monsieur, voulez-vous bien les signer ?» Georges Delaineur va refuser. René Valenko sort son fusil, le braque sur le président et répète « Voulez-vous bien les signer ?» Georges Delaineur va finir par signer ses diplômes. sous la contrainte, est-ce que ça valait quelque chose ? Ça, c'est difficile à savoir. Mais les étudiants ne vont absolument pas s'arrêter là, puisque Valenko et le président du cercle à ce moment-là, Jean-Jacques Batteguet, si je ne dis pas de bêtises, vont aller voir le nouveau recteur en place, qui avait été assez proche des milieux de résistance, en dénonçant, en disant « Voilà, ce professeur ne respecte pas la mémoire de ceux qui sont morts, parce que dans les diplômes, il y a ceux décédés au front également, qui sont diplômés à titre posthume. » Ils vont hurler leur colère. Le recteur va s'engager à ne pas rendre les hommages rendus habituellement aux professeurs qui partent à la retraite. Ce fait qu'il ne pouvait pas le virer, parce qu'à ce moment-là, les profs qu'on vire, ce sont ceux qui ont collaboré. Delaineur a peut-être pas été très sympathique vis-à-vis des étudiants, mais il n'avait pas collaboré, et le signal aurait été peut-être trop loin, mais le recteur s'engage à ne pas lui rendre les hommages habituels. Sauf qu'entre-temps, le recteur va changer, d'ici à ce que M. Delaineur prenne sa pension, et lors de son départ, une grande fête est prévue, une centaine de places sont disponibles pour les étudiants sont ivres de colère, et ivres tout court sans doute, vont se rassembler à une grande réunion du cercle, et la décision suivante est prise, un seul étudiant ira, le président du cercle, qui débarque sur place, retourne sa chaise, s'assoit et passe toute la cérémonie dos au reste.
C'est très symbolique au final.
Voilà, ça c'était le cercle Solvay en 1949, entre 47 et 49.
Ok, en fait là tu as parlé de membres aussi de la résistance, tu nous as donné un ou deux noms. Je sais que c'est pas évident à avoir et je sais que c'était voulu que ce soit... anonyme lors de la guerre, mais est-ce qu'on a des traces de certaines personnes qui ont des grands noms, même des petits noms, des gens qui ont participé à la résistance ou pas ?
Alors, je pense que avant de parler de ça, il est important de parler du groupe G.
D'accord.
Donc, dès que l'occupation arrive, ben, les étudiants, les Belges, les résistants vont commencer à s'organiser, vont se retrouver entre eux, et petit à petit, la résistance va prendre forme. Eux, au début, donc, c'était surtout des missions de sabotage et de résistance classique. Et en 1942, donc, ce groupe de copains décide de fonder le groupe national de sabotage, qui deviendra par la suite le groupe général de sabotage, dit le groupe G. Alors, parmi ses fondateurs, on retrouve Jean Burgers, notamment grand résistant et premier président du groupe G, mais aussi Robert Leclerc, Richard Alentoff ou Henri Neumann.
Henri Neumann, qui était professeur à Solvay à ce moment-là, mais qui avait été également président du cercle de droit avant, donc pour dire que c'est vraiment issu des étudiants de l'ULB. Altenhoff, Burgers, etc. sont principalement issus du cercle du libre examen. Et un peu plus tard, vont rejoindre tout un tas d'étudiants. Pour Solvay, on peut citer René Valenko, Freddy Skenius, qui ont tous les deux été présidents du cercle, Richard Lipper, qui était un membre actif, Jacques Bellière, qui a été auteur dans le Caducé et qui va paraître le fameux Caducé Résistance dont on parlera, etc.
Ok. Est-ce qu'on ne mettrait pas une liste pour ne pas en oublier, pour ne pas oublier d'en citer certains en dessous du podcast ?
Oui, mais il y aura tous les documents qui seront disponibles comme d'habitude. On essaiera de faire un topo clair. Ce qui nous est parvenu, il y a deux choses. Il y a la liste, le Liber Memorialis. Donc, ce sont tous les étudiants, professeurs, membres du corps universitaire décédés pendant la guerre. Et ça, on a pu en récupérer la liste des étudiants à l'école de commerce ou en sciences économiques, puisque nous avons fusionné avec eux récemment. Mais il nous appartient de raconter leur histoire. Donc ça, ce sont malheureusement ceux qui sont décédés, mais il y a également plein de résistants tels que René Valenko qui ont traversé la guerre et qui n'ont pas toujours laissé de traces, et il se peut que des membres particulièrement actifs aient fait partie des comités de résistance et écrit dans les caducés de résistance et participé au guindail pendant la guerre sans qu'on ne le sache jamais.
Oui, parce qu'on peut comprendre à l'époque pourquoi les gens ne signaient pas de leur nom dans les articles.
Ouais. Clairement. Donc là, on était, avant de partir sur les listes et tout ça, on était en 42, le groupe G est créé. Mathias, tu veux embrayer?
Oui, donc le groupe G qui va reprendre à peu près tous les la majeure partie des résistants de l'ULB et qui va se développer très vite puisque comme dit dans son nom, c'est un groupe qui se veut national, qui sera guidé donc par un certain nombre de lignes directrices. Il y a une organisation démocratique au sein du groupe. Il y a une volonté aussi d'avoir la meilleure planification possible, dans le sens où on veut que les sabotages fassent mal à l'ennemi, mais ne portent pas trop préjudice au pays une fois libéré. Et on veut aussi éviter les représailles sur les civils. Donc vraiment, c'est un groupe qui est organisé et qui se veut le plus efficace possible.
Quelques très bons livres ont été écrits là-dessus, notamment celui écrit par Henri Neumann, dont on a parlé avant qu'il soit trop tard, qui raconte un peu l'histoire de tous ces résistants, dont Evalenko, dont Bürger, etc. Et il y a un terme qui va revenir dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, qui dit « Le groupe G, c'est le savoir-faire et l'expérience des cercles étudiants appliqué à un mouvement national de résistance. » Et quand on observe un peu le fonctionnement de ses membres, comment ils ont découpé la Belgique en 10 secteurs, comment ils sont répartis le service matériel, le service d'approvisionnement, le service de renseignement, etc., il y a vraiment une organisation qu'on peut reconnaître avec un bureau, avec des comités, des délégués qui se chargent des activités du groupe.
Alors j'ai une petite anecdote sur Henri Neumann. Donc Henri Neumann, comme beaucoup des membres du groupe G, va très rapidement devenir clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire être clandestin? Ça veut dire qu'on est recherché et qu'on ne peut plus se promener comme on veut au sein, dans le pays, parce que y a l'occupation. Et donc, il va devoir s'échapper vers Londres. Comment on s'échappait vers Londres à l'époque? Pas comme on pourrait le croire par la Manche, puisqu'elle était très surveillée, mais par l'Espagne. Et donc, il va partir avec deux aviateurs anglais sur la ligne d'évasion Comet. Ils vont prendre donc un train de Bruxelles jusqu'à Lille. Ensuite, à Lille, ils vont descendre jusque dans les Pyrénées, traverser la frontière espagnole et arriver à Gibraltar. Où à Gibraltar, il y avait donc Gibraltar qui était toujours anglais, l'Espagne qui n'a pas envahi Gibraltar. Il y avait des lignes d'aviation qui partaient pour Londres. Alors, le voyage s'est pas passé comme prévu. Ils se sont fait arrêter en Espagne. Ils ont croisé, alors qu'ils se baladaient avec les Anglais à vélo pour aller vers les Pyrénées, ils ont croisé une patrouille de flics allemands. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui a été dans cette évasion. Mais vraiment, le plus dingue, c'est que quand ils prennent l'avion à Gibraltar, l'aviateur leur dit « Vous inquiétez pas, il n'y a quasiment aucun risque. Je vole au ras du sol, on ne peut pas me détecter. » Ils arrivent à Londres, tout va bien, etc. Et qu'est-ce que Henri Neumann apprend une semaine après? Que cet aviateur s'est fait descendre avec tout son équipage en revenant. Donc, il est revenu en Espagne, il est reparti, et à ce moment-là, il s'est fait descendre. Donc, vraiment, une évasion vers Londres très, très compliquée et très dangereuse.
Eh ben, je ne connaissais pas du tout cette histoire, c'est super, super intéressant, c'est vrai. Et donc du coup, lui, il a fini la guerre en Angleterre?
Il a fini en Angleterre parce qu'il était clandestin, et donc c'était juste plus possible de rester en Belgique, quoi. Il avait fait trop de conneries, non, de conneries, on se comprend. Il avait trop emmerdé le régime nazi, et il pouvait juste plus rester, quoi.
Après que Jean Bürger, donc premier président du groupe G, soit fait arrêter et fusillé par les Allemands, plusieurs présidents ont repris le groupe G, mais leur notoriété finissait par rêver, au fil des arrestations, etc. Et les résistants ne pouvaient plus rester très longtemps à la tête de l'organisation et devaient très vite fuir pour laisser la place à des nouveaux. Le groupe G a très bien fonctionné dans le secret qui était gardé entre ses membres, et on en reparlera avec les arrestations notamment de Richard Lipper. Mais effectivement, le métier de résistant était dangereux et beaucoup de ceux qui ont fini la guerre ont fini en fait en Angleterre parce que leur nom était recherché. On peut notamment mentionner le nom de Samuel Potasnik, qui était un licencié de sciences économiques de l'époque, actif dans je ne sais plus exactement quel mouvement universitaire, et qui avait une prime de 500 000 francs belges sur sa tête. Donc vraiment, la notoriété qu'acquéraient ces résistants ne leur permettait pas de se promener aussi tranquillement que les membres anonymes de résistance du moment.
Alors oui, l'organisation du groupe G, donc, elle était vraiment fondée sur cet anonymat. Il y avait l'état-major national avec toutes les personnes impliquées et les noms qu'on vient de citer, donc Jean Bürger, etc. Ensuite, l'état-major général, eh bien, il commandait des zones. Ces zones étaient elles-mêmes divisées en régions. On reparlera notamment de Richard Lippers, qui, lui, a dirigé la région du Brabant-Wallon. Et ces régions étaient elles-mêmes divisées en cellules. Et donc ces cellules, elles, elles étaient juste en communication avec le responsable de la région, qui lui était juste en communication avec le responsable de la zone, et les cellules entre elles ne communiquaient pas, les zones entre elles ne communiquaient pas, et c'est pour ça que c'est une organisation militaire, une organisation de résistance très dure à démanteler, parce qu'on trouve une personne. À l'époque, on parlait du principe que tout le monde, on partait du principe que tout le monde parlait sous la torture, donc au grand maximum, cette personne pouvait dénoncer 14 autres personnes, mais c'est tout. Et c'est pour ça que ce groupe a pu rester et a pu avoir autant de membres et prendre une ampleur pareille.
On peut peut-être parler justement du cas de Richard Lipper, donc membre actif du Cercle Solvay, secrétaire adjoint général de l'Assemblée générale des étudiants et actif au groupe G dans le service matériel. Il va être arrêté le 8 décembre 1943 et torturé par l'occupant forcément pendant plusieurs jours. Il est considéré comme un otage et après quelques semaines, les Allemands n'ayant rien pu obtenir de lui, selon ce qu'on sait, vont décider de l'exécuter. Et il va laisser une dernière lettre à sa mère qui nous est parvenue, qui se termine par « Ma petite maman adorée, je vais être fusillé dans 2 heures. Ton fils saura mourir dignement grâce à toi, grâce aux principes élevés que tu lui as inculqués. » Et en sa mémoire, parce qu'il s'agit peut-être du résistant le plus connu, en tout cas dont le cercle est le plus souvenu après-guerre, ils vont éditer une médaille, encore sous l'occupation à ce moment-là, mais vont également lui rendre des hommages tous les 25 novembre, donc date symbolique de la fermeture de l'université, toutes les années après-guerre. La tradition s'est un peu perdue, mais on essaye de refaire vivre cet hommage et en même temps tous les membres du groupe G, tous les membres fusillés au tir national, tous les étudiants de l'ULB qui se sont levés à ce moment-là.
Donc tout ça c'est en lien avec le groupe G. Est-ce que ce groupe G a cessé d'exister à un moment pendant la guerre ou il a tenu bon jusqu'à la fin de la guerre et,
Il a tenu bon et le principe dont a parlé Mathias de tout le monde, on ne connaissait pas tout le monde dans le groupe, permettait que le groupe avance, même si certaines factions ont parfois dû être isolées ou se sont fait entièrement décimer. Il y a toujours une activité et après-guerre, ces membres vont se reconnaître, tels Henri Neumann ou René Valenko, qui ont occupé des postes, ont dû se retrouver après-guerre pour se souvenir de tout ça. Mais le groupe G n'est pas le seul mouvement de résistance actif. Dans les grands mouvements, il y a eu l'armée des partisans, qui est un mouvement... communiste, on va dire, à ce moment-là, dans lequel sera très actif, notamment Antonina Grégoire, présidente de l'Assemblée Générale des étudiants et membre du Cercle Solvay également. Samuel Potasnik, maintenant je m'en souviens, a été actif dans l'Union des marxistes contre le nazisme, qui était un groupe principalement juif à ce moment-là de résistance, et il va y en avoir toute une série. Il y a aussi l'armée régulière, dans laquelle seront actifs Roger Belpère, par exemple, autres... étudiants de Solvay à fusillés.
Donc tout ça, ce sont des groupes de résistance universitaire.
Oui. L'armée régulière, pas, mais oui. ce qu'on a cité, oui.
Ok, ça va, intéressant. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à rajouter d'ici la fin de la guerre?
Au-delà de ces groupes de résistance, on peut parler aussi du Cercle Solvay lui-même, qui va continuer d'exister malgré la guerre, malgré l'interdiction de... l'interdiction et la dissolution des syndicats étudiants. Dans les faits marquants, on peut parler du Caducée Résistance, qui est disponible, bien entendu, dans les documents présents sur le site, et qui, à ce moment-là, est un vrai message d'espoir. Il sort en 1943, c'est un vrai message d'espoir pour toutes les personnes occupées, pour tous les membres.
Donc du coup, en 1939, c'était pas le dernier Caducée qui a été écrit? Ou bien c'était le dernier jusqu'à 1943?
En 1939, c'est le premier
Caducée. Le premier.
En janvier 1939 sort le premier, le dernier doit sortir... je pense même en mai 40, et après ça il va y avoir vraiment une pause. Sans doute que d'autres sont sortis mais ne nous sont simplement pas parvenus, mais effectivement le caducée de 1943 qui est beaucoup plus brouillon, enfin ce sont vraiment 4 feuilles imprimées, agrafées ensemble, rien n'est signé, on comprend pourquoi, mais qui vont décrire l'activité du Cercle Solvay. La première page est un mot d'espoir qui se termine, l'espoir grandit dans nos cœurs. Contre l'irréductible tyrannie, nous reviendrons plus forts et au sein de l'université, nous dirons encore vive le Cercle Solvay. Donc, le premier message, c'est vraiment. Il n'y a aucun doute sur le Cercle Solvay est engagé dans les activités de résistance à ce moment-là. Et ensuite, ça part sur un caducée presque classique avec la description de nos activités. Donc voilà, cette année, on a pu élire le nouveau comité de baptême. Donc on sait le nouveau comité de cercle et de baptême.
On
Donc
sait qu'il y a eu des baptêmes pendant la guerre.
on sait qu'il y a eu des baptêmes pendant, il y en a même eu après. En 45, on va avoir deux salves de baptisés pour rééquilibrer le nombre. Pendant ce temps, on va tenir des assemblées générales. Il y a même un thé d'encens dont l'ambiance est décrite comme un peu différente. Forcément, il
Un
y a...
peu tendu au début, mais ça va se détendre au final. Par là, on a de moins en moins peur. L'alcool.
Et c'est décrit avec la première page est grave, consacrée à l'effort de guerre, et puis il y a eu un bal, il y a eu un banquet, on a fait soyer, on s'est rassemblés. Et donc on a eu des comités de cercle, on suppose, même s'il est très difficile de trouver la trace, avait en 41-42, 42-43, 43-44, et après c'est la réouverture, et notamment Jacques Bataguet dont on a parlé.
Donc les caducées n'avaient pas vocation à faire parvenir des informations à gauche, à droite, ou bien n'étaient pas impliqués directement dans la guerre.
Il y a des articles consacrés qui expliquent, voilà, on sent des rassemblements sur la côte nord de l'Afrique, l'Italie voit débarquer le spectre d'une invasion, donc il y a quelques petits renseignements donnés aux membres, mais le caducée n'est pas là pour ça, il n'est pas écrit par un groupe de résistance en particulier. La première page explique, les suivantes se consacrent vraiment aux activités du cercle pour les décrire. On peut peut-être parler des blagues qui ont été faites dedans,
Oui,
Mathias.
d'ailleurs, il y a quelqu'un qui cherchait, je pense qu'il cherche toujours une grosse mitraillette en bon état. Du coup, si vous avez une grosse mitraillette en bon état.
Il y a écrit quoi exactement? C'est quoi la description de cette demande?
C'est dans les petites annonces du caducée de 1943.
Alors, dans les petites annonces.
Donc
Alors,
on cherche en même temps.
on cherche mitraillette et état neuf, et de préférence fonctionnelle.
Bah écoute, c'est assez clair. J'espère qu'ils l'ont reçu. Bah écoutez, moi, je sais plus trop s'il y a des choses à dire parce que c'est vous les spécialistes dans le domaine. Mais si plus personne n'a quelque chose à rajouter ici.
On n'a pas pu citer tous ceux qui se sont
Non,
battus ou ceux qui
évidemment.
sont tombés, mais normalement, si on l'a fini, même le document est encore en cours parce que les recherches sont pas évidentes, il y aura la liste de ceux qu'on a pu retrouver, un peu de leur histoire, du pourquoi, du comment et de leur activité, qui sera disponible à la sortie du podcast.
Tu as aussi parlé donc de Richard Lippe et de la commémoration qui était en général faite le 25 novembre, en général faite le 25 novembre pour Richard Lippe et aussi pour les membres tombés au combat. Il faut savoir que cette année, il y avait une volonté de la refaire. Malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas pu se passer comme prévu. Et donc, on s'est retrouvé avec 3-4 délégués devant sur le groupe G pour une mini commémoration et un mini discours. Mais on espère que l'année prochaine, on pourra en faire quelque chose de vraiment grand pour rendre hommage à tous ces combattants.
Mais écoutez, voilà, je pense qu'on annonce ici un peu la fin du podcast. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés jusque-là. Et ce sujet-là est un sujet un petit peu plus, un petit peu plus sérieux que les autres. On imagine que beaucoup de vous ont des informations à ce sujet-là, donc n'hésitez certainement pas à nous les transmettre. Le mot de la fin? Un mot de la fin?
Moi, je voulais juste dire bonjour à ma mamie qui écoute le podcast.
Bonjour Cathy.
Et comme il disait en 43, vive le cercle Solvay.
Vive le
Vive le
cercle
cercle
Solvay.
Solvay.
Au revoir.